la parole inspirée de Dieu. En fait, la Bible dit que la parole, c'est comme une semence. Une semence qu'une fois plantée dans notre cœur, peut porter du fruit. Et c'est pourquoi on aime faire cette déclaration, parce que la Bible nous enseigne que ce que nous confessons, ce que nous disons avec notre bouche, et ce que nous croyons de notre cœur, s'accomplira. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il verra s'accomplir. Hein? C'est comme ça qu'on vient à Jésus. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il est ton maître. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, donc on voit encore, on parle et on croit. Et si on croit à ce qu'on dit s'accomplira. C'est pourquoi on aime faire cette déclaration. Donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à prendre ça entre vos mains. Sinon, il y a une feuille qu'on a donnée à tout le monde avec les versets que nous allons lire ensemble qui sont marqués dessus. On va prendre ça dans nos mains, on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé. Ça peut vous sembler drôle, peut-être, si vous n'avez jamais vu ça ou entendu ça. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Mais parce que, vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui même, qui sont dans des places religieuses, et ils vont entendre les sermons, ils vont entendre les messages, ils vont même entendre quelques versets des Écritures, mais ça ne va pas les changer. Amen? Pourquoi? Parce que c'est par tradition qu'ils vont juste assister à l'Église. Mais si on peut vraiment... En fait, la Bible dit que la parole qui a été prêchée aux Israélites ne leur a pas profité, ça n'a pas porté du fruit parce que la parole n'a pas été mélangée avec la foi. Quand on reçoit, quand on entend la prédication de la parole, quand on lit la Bible chez nous, il faut savoir, c'est Dieu qui me parle. Il faut recevoir ces paroles vraiment avec un esprit et un cœur humble et doux. Et si on reçoit la parole comme ça, la parole va effectuer un changement. Ça va agir dans notre vie et ça va produire du fruit. Amen? C'est pourquoi j'aime toujours prendre un petit temps là. Aujourd'hui, j'avais à cœur de parler juste quelques minutes de comment vaincre l'ennemi de votre âme. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont au courant que vous avez un ennemi? Savez-vous que vous avez un adversaire? Mon but ce matin, ce n'est pas de glorifier notre adversaire. Au contraire, c'est de vous montrer que lui, il est déjà vaincu. Il est sous nos pieds. Il est prêt à être écrasé sous nos pieds. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre monde qui ne croient pas que nous avons un adversaire. Il y a des personnes, par exemple, des athées, qui ne croient même pas que Dieu existe. Mais la Bible dit que c'est un insensé qui dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'ouvrir les yeux et regarder les arbres, de voir un bébé naître, de voir la neige tomber. Hein? On ne veut pas parler de ça tout de suite. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'ouvrir nos yeux et la création elle-même nous montre que Dieu existe. Hein? Il y a des personnes qui disent, « Oh, mais c'est à cause d'un Big Bang. » Well, peut-être, oui. Est-ce que vous croyez au Big Bang? Oui. Dieu a dit que la lumière soit et bang! La lumière fut. Amen. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est ouvrir les yeux et voir Dieu existe. Mais savez-vous qu'il y a une autre catégorie de personnes qui croient, oui, je crois que Dieu existe, mais je ne sais pas qui il est. Hein? Oui, les gens vont dire, mais peu importe qu'est-ce que vous croyez, l'essentiel, c'est de croire en quelque chose. Hein? Donc, quand on dit qu'il faut croire en Jésus, ils disent, oh, mais ça, c'est votre opinion de croire en Jésus. Il y a d'autres qui ont d'autres idées. Et parce que ça se peut qu'eux autres aussi ont raison. Donc, dans le fond, la seule chose qui compte, c'est pas
Qu'est-ce que vous croyez? C'est juste, il faut croire quelque chose. Avez-vous entendu ça? Mais c'est pas vrai. Parce que si quelqu'un croit que c'est bon pour la santé de boire de l'essence, laisse-moi vous dire, c'est pas bon pour la santé. On peut respecter sa croyance, mais il va quand même mourir. On n'a rien contre la personne qui veut boire de l'essence. On n'a rien contre lui. C'est bien correct. Il a le droit de le faire s'il veut. Mais c'est pas bon pour la santé. Si quelqu'un croit que pour aller à Québec, il faut prendre l'autoroute 20 direction Montréal, il peut croire ça s'il veut, mais il n'a pas raison. Amen? Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que encore, il y a différentes catégories de personnes. Il y a des personnes qui ne croient pas du tout que Dieu existe. Il y a d'autres qui croient qu'il existe, mais que, on ne sait pas qui il est. La vérité, c'est que on sait qui il est. Jésus a dit, je suis la vie, je suis la vérité et je suis le chemin. Personne ne vient au Père que à travers moi. Donc, soit il est menteur, soit il est maniaque ou il est mon maître. Amen? Donc, mais vois-tu? Il y a des personnes qui croient que Jésus existe, qui croient qu'il est le Fils de Dieu, mais il y a une autre catégorie de personnes qui ne croient pas, par exemple, que le diable existe. Ils disent, oui, je crois en Jésus, mais cette affaire du diable, cette affaire de l'enfer, j'y crois pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens qui ne croient pas au diable. C'est dangereux, n'est-ce pas? Et le fait que vous ne croyez pas en lui, ça nous démontre que il vous a déjà vaincu. Amen? Donc, encore, mon but ce matin, ce n'est pas de nous faire peur, au contraire. C'est juste de nous réveiller. C'est juste de nous rappeler que oui, on a un adversaire. Oui, il y a un être spirituel qui nous déteste, qui nous haït et qui veut nous détruire. Mais nous n'avons rien à craindre. Mais, vois-tu, il y a deux extrêmes qu'il faut éviter. Il y a des personnes, d'un côté, ils vont dire, je crois même pas que le diable existe, eux autres, ils sont déjà faits. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes que, pour eux, le diable est plus grand que Dieu. Ils parlent toujours du diable, et de qu'est-ce que Satan a fait. Oh, le diable, il m'acharne. Et oh, le diable, il m'attaque. Oh, le diable, il me donne du trouble. Et oh, là, 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 là. Il parle du diable comme s'il est énorme et du Dieu comme s'il est petit. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? C'est de revenir à la vérité. La vérité, c'est que, oui, Dieu existe et Dieu est tout puissant, mais il y a un diable. Il y a un ange qui a été créé, qui s'appelait Lucifer, qui, au moment donné, a décidé de révolter contre Dieu et il a amené avec lui un tiers des anges de Dieu. Donc, est-ce qu'il existe? Oui. Est-ce qu'il a des pouvoirs? Oui. Est-ce qu'il est capable de faire du mal dans ce monde? Oui. En fait, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin qu'ils aient mes brebis et la vie, et qu'elle est même avec abondance. Donc, le diable existe, mais il est vaincu. Et pour un chrétien, pour un croyant, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, on n'a absolument rien à craindre du diable. En fait, c'est le contraire. Le diable, il a peur de nous quand nous savons qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous de Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez le diable et il va fuir. Il va prendre la fuite comme étant terrorisé, hein? On va juste lire quelques versets de la parole. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » J'avais vraiment dans mon esprit cette semaine que nous, en tant qu'Église, on a besoin tout simplement de veiller, de se réveiller, de savoir que oui, on a un adversaire, oui, il est à l'œuvre, oui, il rôde, mais il fait du bruit, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a plus des dents. Parce que Jésus lui a arraché les dents à Calvaire. Amen? Donc, la seule chose que le diable peut faire pour nous dévorer, c'est de nous faire peur. Et des fois, c'est tout ce que ça prend. Je viens de lire quelque chose d'un médecin qui n'est même pas chrétien, qui parlait du fait que, oui, il est possible pour une personne d'être tellement effrayée que ça va causer des réactions dans son corps, ça peut arrêter son cœur et une personne peut littéralement mourir de peur. C'est vrai, hein? Donc, vous savez que, oui, il est possible quand même pour le diable de dévorer même les chrétiens, mais c'est parce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont et quel pouvoir, quelle autorité qu'ils possèdent en Jésus. Parce que dans le fond, à chaque fois qu'il rôde, à chaque fois qu'il rugit, à chaque fois qu'il fait du bruit pour nous faire peur, on devrait dire non, au nom de Jésus, tu es vaincu, tu es sous mes pieds. Arrière-moi, OK? Là, alléluia, hein? Apocalypse. J'ai eu un petit blanc de français, là, mais c'est pas grave. Tout le monde va prier pour moi, hein? Apocalypse, chapitre 12. On va lire à partir de verset 7. Regardons ces versets. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. » Avez-vous entendu ça? Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et puis verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc on voit, quelqu'un qui dit qu'on n'a pas d'adversaire n'a jamais lu sa Bible. On a un adversaire, il s'appelle Satan. Lui, il rôde comme un lion rugissant. On voit que il est animé d'une grande colère. Pourquoi? Il est fâché parce qu'il sait qu'il ne lui reste que très peu de temps. Jésus revient très bientôt. Est-ce que vous le croyez? Et le but de Satan, c'est de faire tout son possible, de détruire le plus du monde que possible avant que Jésus vienne. Lui, il veut détruire le plus des familles que possible. Il veut que le plus grand nombre de personnes soit accroché à la drogue. Il veut que le plus grand nombre de personnes se suicident. Il veut que le plus grand nombre de personnes provoquent les guerres et les problèmes. Amen? Il veut que le plus grand nombre de crimes puissent avoir lieu avant que Jésus vienne. Il est furieux. Lui, il n'a pas d'espoir. Il sait qu'il est destiné à passer l'éternité dans un étang de feu. Et lui, son seul désir, c'est de détruire autant de personnes que possible avant d'être jeté dans cet étang de feu. C'est pas un gars avec qui tu veux faire les affaires. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui font les affaires avec le diable, sans le savoir. Et c'est pourquoi il faut, nous, première chose, il faut qu'on connaisse et il faut qu'on soit capable de reconnaître notre ennemi. Il faut savoir qui il est. En fait, je vais juste lire, il y a plusieurs versets, on ne va pas prendre beaucoup de temps. On pourrait vraiment approfondir cette étude, mais on n'a pas le temps ce matin. En 2 Corinthiens 2, 11, c'est marqué « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Savez-vous que le diable, il a les desseins, il a les plans et les projets pour votre vie. C'est vrai, n'est-ce pas? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan pour votre vie qui est merveilleux. Autant le diable veut vous faire souffrir, autant plus le Dieu Tout-Puissant veut vous faire réussir et vous faire prospérer. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il veut que vous soyez heureux. Il veut que vous soyez comblés, bénis à tous égards. Et qu'est-ce que je ne veux pas? Je ne veux pas voir les enfants de Dieu qui sont rachetés par le sang de l'agneau, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui connaissent le Seigneur, qui ont reçu l'autorité de faire usage de son nom éternel. Je ne veux pas voir les enfants de Dieu opprimés, volés et détruits par un diable qui est déjà vaincu. Amen. C'est le temps pour nous de se réveiller. Parce que vous savez que dans les jours qu'on vit, on va voir de plus en plus et de vraiment, on va voir la méchanceté, on va voir le mal et la souffrance se multiplier autour de nous. Accrochez-vous parce que ça s'en vient. Amen. Il y a des choses qu'on voit déjà, comme j'ai mentionné. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie avec les jeunes enfants dans une école? Un enfant ne devrait jamais avoir peur d'aller à l'école. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai lu quelque chose que dans les années 50, la plus grosse peur des enfants dans les écoles, c'était d'être pogné par le professeur avec la gomme à mâcher, hein, d'avoir une punition à l'école, les petites choses comme ça, de perdre des petites affaires, et c'est ça leur petite crainte. Aujourd'hui, ils ont peur d'être attaqués, ils ont peur de violence. On vit dans un monde qui est de plus en plus méchant. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et plus ce monde devient ténébreux, plus la lumière de Dieu va briller pour éclairer. Donc, la pire chose qu'on pourrait faire en tant que chrétien, c'est de dire, « Oh, j'ai peur. Oh, Seigneur, viens nous chercher vite, vite. Oh, je ne sais pas si je vais être capable de toffer jusqu'à ce que tu viennes. » Ce n'est pas cette attitude qu'on devrait avoir. On devrait avoir une attitude de vainqueur, d'une église triomphante, des personnes qui n'ont rien à craindre, des personnes qui savent qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On est supposé d'être l'espérance, la lumière du monde, le sel de la terre. Nous sommes ceux qui vont donner une raison à être à tous ceux qui nous entourent. Ils vont venir vers nous pour nous demander une raison pour notre espérance. Comment pouvez-vous être dans la joie malgré toute la souffrance? Parce que nous connaissons Jésus et nous avons vaincu l'ennemi en lui. Amen. En Éphésiens 6, 11, 12 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas un combat charnel. » Et voici le truc. Le diable va agir d'une façon avec les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il va agir d'une autre façon avec ceux qui le connaissent déjà. C'est-à-dire qu'encore, ceux qui ne croient pas que le diable existe, ils ne touchent même pas à eux autres parce qu'ils sont déjà vaincus. Et puis, il va traiter les autres d'une autre façon. Mais pour ce qui concerne les chrétiens, personne, il n'y a pas un chrétien sur la terre qui veut volontairement faire affaire avec le diable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je dirais, par exemple, que ce soir, le diable va arriver chez vous et il va vous présenter un projet et il veut que vous embarquiez avec lui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, « Ah oui, je vais essayer ça pour une semaine et voir ce que ça donne? » Non, personne. Pourtant, laisse-moi vous dire que peut-être même cette semaine, le diable va arriver chez vous avec un projet. Un projet de destruction. Et il va l'introduire dans votre foyer d'une façon subtile. Il va se déguiser. Amen? Le diable n'arrivera pas chez vous avec une fourche, avec un habit rouge, une petite corne sur la tête en disant, « Salut! Qu'est-ce qu'on va manger pour souper ce soir? » Non, il va arriver avec une petite pensée qu'il va planter dans le cœur de quelqu'un, dans la tête à quelqu'un. Peut-être une petite chicane qu'il veut essayer de brasser chez vous. Des petites pensées contre votre épouse, contre votre mari. Des petits problèmes, des conflits entre vos enfants. Hein, quelque chose qu'un autre frère, une autre sœur a fait qui ne fait pas votre affaire. Aujourd'hui, vous allez voir le coiffe de quelqu'un à côté de vous. Vous dites, hey, c'est pas mal laid, hein? J'exagère, mais des fois, c'est des choses comme ça. Peux-tu imaginer? Le gars, il vient comme ça à l'église. Hey, c'est des petites choses. Il est subtil. Il est séducteur. Il n'est pas... Comment je dirais ça? Le diable n'est pas tout puissant. Il n'a pas toute la sagesse. Mais quand même, il n'est pas un tweet non plus. Excuse le bon français, hein? Quelqu'un qui était capable de convaincre un tiers des anges de Dieu de le suivre dans une rébellion. Amen? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut le reconnaître. Qui est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître? On va le reconnaître. Jésus a dit, vous allez connaître un prophète par le fruit de son ministère, n'est-ce pas? Vous allez reconnaître aussi le diable par le fruit qu'il veut porter dans votre vie. Et on voit plusieurs choses dans la Bible qui nous disent qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa nature, quelle est sa personnalité. Il est appelé l'accusateur. Dans vos notes, j'ai plusieurs choses. Accusateur. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Savez-vous quoi? Que si vous avez les pensées, les accusations qui viennent souvent dans votre cœur, un esprit de critique contre les autres personnes, vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen? As-tu vu comment le pasteur casse son français, hein? Enfin, non. As-tu vu comment telle personne fait telle chose? As-tu vu, ils ont, la façon qu'ils, oh, la musique était trop forte, ou la musique était pas assez forte, ou quoi que ce soit. Savez-vous que si vous avez les idées négatives, les critiques, les accusations contre votre épouse, vos amis, vos collègues, les membres de l'église, ou n'importe qui, n'importe où, sachez que ça vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un accusateur. C'est Satan qui est l'accusateur. Amen. On sait aussi qu'il est meurtrier. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il est menteur aussi. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais laisse-moi vous dire une affaire. Quand il va vous mentir, il va toujours enrober ses mensonges dans la vérité. Avez-vous entendu? Il va enrober ses mensonges dans la vérité. Si je veux empoisonner un chien, je ne vais pas lui offrir une boîte de poison pure. Je vais prendre un bon steak et je vais mettre un peu de poison dedans. Je vais lui offrir ça et ensuite, 90% de ce qu'il mange, c'est bon pour lui. Mais c'est l'autre 10% qui est fatal. Et c'est la même chose avec l'ennemi. Il faut que tu saches que souvent, quand le diable il vient nous mentir, il nous donne la moitié de la vérité. Comme par exemple, j'ai dit, « Ah oui, c'est correct, tu peux croire en Jésus, mais Jésus, oui, je crois qu'il est, il est venu, mais il y a certaines sectes, par exemple, qui disent, « Oui, Jésus est venu, mais il n'est pas Dieu, il est en Dieu. » C'est la moitié de la vérité. Amen. Et c'est la moitié qui n'est pas vrai qui est dangereux. Il est meurtrier, il est menteur, il est voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc, il est venu pour voler notre santé, voler notre joie, voler nos biens, voler notre prospérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la victoire sur lui. Il est séducteur. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il est tentateur. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous ne sions travaillés en vain. Il est aussi oppresseur. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc vois-tu, ça c'est la nature de Satan. Il est menteur, meurtrier, toutes ces choses. Il est oppresseur, séducteur. Il n'est pas un bon gars. Et je pense qu'on a besoin de développer une haine, on pourrait dire, pour notre ennemi. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Souvent, on développe une haine contre les personnes dans notre entourage qui nous fatiguent. Mais ce n'est pas eux le problème. C'est les principautés, c'est les esprits méchants, c'est le diable, c'est Satan qui est notre problème. C'est lui qui est notre ennemi. Amen? Savez-vous, vous avez des collègues au travail que vous êtes sûr que c'est lui votre ennemi. Il y a des personnes ici, peut-être vous pensez que c'est votre mari, que c'est vraiment lui mon ennemi. Ou votre fils, ou votre fille, ou quelqu'un d'autre. C'est pas, il n'y a pas une personne sur la planète qui est votre ennemi. Votre ennemi est un être spirituel qui est déjà vaincu. Amen? Mais qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer notre victoire? La bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable, la maladie, la pauvreté, la séduction, la tromperie, la déception, l'oppression, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans votre vie. Êtes-vous malade aujourd'hui? Bonne nouvelle, Jésus est venu pour détruire la maladie dans votre vie. Êtes-vous cassé aujourd'hui? Bonne nouvelle, Jésus est venu pour détruire la pauvreté dans votre vie. Amen? Êtes-vous déprimé? Il est venu pour détruire la dépression et vous donner la joie en place. Jésus vous aime. Il a déjà vaincu Satan. Quand il était cloué à la croix, son sang a coulé. Et une fois pour toutes, il a désarmé l'ennemi de votre âme. Il n'a plus des dents, il n'a plus des armes, il n'a plus vraiment une vraie capacité de vous détruire à part sa capacité de vous mentir et vous séduire. Si vous croyez à ses mensonges, vous êtes fait. Mais si vous croyez à Dieu et à sa parole et à l'autorité qu'il vous a donnée, vous êtes dans la protection de Dieu. Amen. On a lu en Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Ça parle des chrétiens ici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc aujourd'hui, trois choses qu'on veut souligner. Que vous pouvez faire, que moi je peux faire pour garder l'ennemi de notre âme sous nos pieds. Parce que je pense qu'il ne devrait jamais avoir le droit de faire quoi que ce soit dans ma vie. Jouez pas avec le diable. Quand il joue, ce n'est pas juste. Il ne suit pas les règles. Si tu l'invites au souper, parce que des fois, les personnes disent, « Oh, mais c'est pas grave, je vais juste faire ça. Je sais que c'est pas tellement bon, c'est pas tout à fait correct. Je vais le faire quand même et après, je vais demander pardon. » Comme je dis toujours, si tu invites le diable chez vous pour souper, il va toujours arriver avec une valise, avec son pyjama dedans. Tu lui ouvres la porte, il est là. Bon, il me donne une petite chance, je vais le prendre, je vais m'installer plus tard. Trois choses. Ils ont vaincu le diable. Comment? Numéro un, par le sang de l'agneau. Donc, mettez votre confiance dans son sang. Dans une minute, dans quelques minutes, on va prendre le jus qui représente le sang précieux de l'agneau. Mais il faut que vous sachiez que Satan, il a peur de son sang. Et si vous avez affaire avec le diable, vous avez juste à dire, je plaide le sang précieux de Jésus. Je suis un... Pourquoi? Parce que le sang représente l'alliance que Dieu a prêtée avec nous. L'alliance qu'il a faite avec nous. Savez-vous que quand Jésus est mort sur la croix, il est entré en alliance avec nous. Comme quand je me suis marié avec Tania, on est entré en alliance. J'ai dit, Tania, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'appartient. Et elle a dit, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'appartient. Nous sommes un. Et quand on rappelle au diable que nous sommes un avec Jésus-Christ, il a peur de nous. Il faut couvrir votre famille avec le sang de Jésus. Il faut plaider le sang de Jésus. Il faut plaider le sang de Jésus pour sa protection, pour sa provision. À chaque fois que le diable veut lever sa tête, on dit non, au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Deuxième chose qu'on a besoin de faire pour garder le diable sous nos pieds, confesser constamment, toujours et en tout temps, la parole. Savez-vous que qu'est-ce que vous dites va soit donner libre cours à Dieu dans votre vie ou soit donner libre cours à Satan dans votre vie. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais il y a un principe ici. Dieu, quand il a créé le monde, comment est-ce qu'il a créé avec sa parole, avec sa bouche? La Bible dit en Proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On voit en Psaume 103, dans le Psaume 103, on voit que les anges de Dieu, ils répondent à la parole de Dieu. Quand ils entendent la parole de Dieu, les anges répondent. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu est dans votre bouche et quand vous déclarez ce que Dieu dit, que deux choses arrivent. Le Saint-Esprit agit et les anges agissent aussi. Quand Dieu a dit que la lumière soit, n'oubliez pas que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, mais rien qui se passait avant que Dieu a dit que la lumière soit et ensuite le Saint-Esprit a agi et la lumière fut. Même chose dans votre vie. Quand vous déclarez qu'est-ce que la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit agit. Sa puissance est relâchée. Et en plus, les anges de Dieu sont envoyés pour te secourir, pour t'aider et pour t'accompagner. Donc, c'est pas, ça ne prend pas un scientifique de comprendre que ça marche dans l'autre sens aussi, n'est-ce pas? Parce que Satan, quand même, il a été créé par Dieu. Et les mêmes principes, les mêmes lois spirituelles qui fonctionnent pour le bien fonctionnent aussi pour le mal. C'est-à-dire que si on dit les choses qui sont méchantes, si on parle des choses qui sont négatives, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner la liberté à Satan d'agir dans notre vie. Et ses anges vont entendre ces paroles et ça va leur donner l'autorité d'agir dans notre vie aussi. Est-ce que vous me suivez? Si c'est vrai pour le bien, c'est aussi vrai pour le mal. Si la parole de Dieu dit que quand je confesse avec ma bouche et crois dans mon cœur que Dieu agit, le Saint-Esprit agit et que les anges des cieux sont déployés pour m'aider, c'est vrai aussi que quand je parle les paroles de l'ennemi, quand je dis qu'est-ce que l'ennemi dit, quand j'ai les choses négatives dans ma bouche, que ça donne le droit et l'autorité à Satan d'agir et ses émissaires sont envoyés pour me détruire. Avez-vous saisi? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par les paroles de leur témoignage. Voulez-vous vaincre le diable pour vrai? Parlez comme il faut. Vous dites, oh, mais qu'est-ce que ça va changer? Oh, c'est juste les mots, c'est juste les paroles. Qu'est-ce que les paroles de Dieu ont fait? Nous sommes créés en son image, à sa ressemblance. C'est Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Si nos paroles peuvent déplacer les montagnes, ça peut déplacer des bonnes montagnes et des mauvaises aussi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Donc, mettez votre confiance dans son sang, numéro un. Numéro deux, confessez en tout temps la parole. Et numéro trois, ne craignez plus la mort. Je vais vous donner une clé de la réussite dans votre vie. Si vous avez peur de la mort, vous allez rester toujours sous la puissance de l'ennemi. Mais si vous êtes capable d'être libéré une fois pour toutes de cette peur, cette crainte de mourir, Satan n'aura jamais plus l'autorité pour vous déranger. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont peur de mourir? Levez pas la main. Si vous n'êtes pas chrétien, vous avez raison d'avoir peur de mourir. Parce que vous ne connaissez pas Jésus. Mais si vous connaissez Jésus, Paul a dit, il savait que la fin de sa vie s'approchait, il a dit, j'ai comme un choix difficile à faire, j'ai le désir de partir être avec le Seigneur, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais j'ai le désir aussi de rester ici pour porter encore plus de fruits parmi vous. Si on a peur, parce que laissez-moi vous dire une chose, regardez-moi, la peur et la foi sont les forces opposées. Il est impossible d'avoir foi et d'avoir peur en même temps. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Ça veut dire plusieurs choses. De un, je n'ai pas besoin de craindre la mort physique. De deux, je n'ai pas besoin de craindre la mort de ma chair, de crucifier la chair, de laisser mes désirs, mes plans, mes projets à côté pour suivre les plans et les projets de Dieu. Si vous avez peur de perdre votre vie, vous allez la perdre. Jésus a dit, si vous essayez de sauver votre vie, vous allez la perdre. Mais si vous la perdez pour moi et pour mon évangile, vous allez la trouver. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit libérés de nous-mêmes. Il faut qu'on soit capable de tenir devant Dieu en sachant, Seigneur, je sais que je suis en règle avec toi, que si je meurais physiquement, j'irai directement au ciel. J'ai dit ça aux jeunes hier soir. La Bible dit, un homme, qu'est-ce qu'un homme peut me faire? La pire chose qu'une personne, un être humain pourrait vous faire dans ce monde, c'est de vous tuer. Et dans le fond, il va juste vous rendre service, il va vous envoyer au ciel plus vite. Donc, on a besoin d'être capable de tenir devant Dieu, de tenir devant les autres, n'ayant pas peur. On n'a rien à craindre. Si je n'ai pas une place pour la peur dans mon cœur, je n'ai pas une place pour le diable dans mon cœur. Je vais juste lire ce verset pour terminer. Hébreux chapitre 2, 14 dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Est-ce que vous avez saisi qu'est-ce que je viens de dire? Tous ceux qui ont peur, tous ceux qui craignent la mort sont les esclaves de Satan. On est comme les petites marionnettes menées par les cordes, menées par notre nez. S'il peut nous faire peur, on va faire qu'est-ce qu'il nous demande. Mais si on n'a plus peur, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'ai vu ça souvent avec des personnes malades qui ont peur de mourir. Ils sont atteints d'une maladie, ils ont peur de mourir. Aussi longtemps qu'ils ont peur de mourir, ils ne vont jamais être capables de recevoir la guérison. Mais je dis, tu sais quoi? Dès que vous êtes capable de vous libérer de cette peur, cette crainte de mourir, vous serez dans un état de foi. Et là, vous allez être capable de recevoir la guérison. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qu'une fois qu'ils ont banni la crainte de mourir, ils ont reçu la guérison et ils ont vécu longtemps. Amen? Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Si quelqu'un peut venir au piano, je ne sais pas si toi ou Jean-Charles, on va finir ce matin. On va sceller ce message avec le repas du Seigneur. J'avais vraiment dans mon esprit que nous, en tant qu'Église, on avait besoin. Ce n'est pas souvent qu'on parle du diable à l'Église, parce que moi, je n'aime pas glorifier le diable. J'aime glorifier Dieu. Et je vous invite vraiment, à moins que vous êtes vraiment obligés de rester. C'est le moment le plus important de l'Église, de l'Assemblée ce matin. Et si vous quittez tout de suite, vous allez sûrement manquer la meilleure. Avec tous les yeux fermés. J'ai ressenti dans mon esprit que le Seigneur voulait, par sa parole et par son Esprit Saint, nous avertir que oui, il y aura des attaques de l'ennemi que nous allons voir autour de nous. Il y a des choses que nous allons voir sur le plan international, même ici, dans notre ville. Il y a des choses qu'on va voir. Mais que si nous mettons cette parole en pratique, nous n'avons rien à craindre. Soyons pas surpris par les attaques de l'ennemi. Soyons pas étonnés de voir que la méchanceté est en train de se répandre dans ce monde. Parce que le diable, il est fâché, sachant qu'il a très peu de temps qui lui reste. Mais nous, il nous reste très peu de temps aussi pour finir l'œuvre de Dieu ici sur la terre.
Et son œuvre, c'est d'aller prêcher cet évangile à chaque créature, de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que Jésus nous a commandé. Il nous reste un peu de temps, mais pas beaucoup. Et c'est pourquoi on a besoin. Donc moi, j'ai la conviction dans mon cœur. Regardez-moi une minute. J'ai la conviction dans mon cœur qu'on est comme juste là sur le point de voir un grand réveil. Je ne parle pas juste mondial parce que c'est déjà commencé, mais je parle de notre église, là, de notre ville, à Drummondville. Moi, je crois de tout mon cœur qu'on est comme juste là. Amen. On n'est pas encore là, mais on est juste là. Ça ne va pas tarder. Et l'ennemi n'est pas content. Et il va faire tout son possible de diviser les couples, diviser les chrétiens, semer toutes sortes de problèmes. Mais on n'est pas ignorant de ses desseins. Et on va prendre notre place et par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage. Et parce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes. Et prendre la croix chaque jour et suivre Jésus. Et laisser sa vie de résurrection nous diriger, nous animer à tous les jours. Nous allons pouvoir démontrer sa victoire tous les jours. Amen. Donc avec tous les yeux fermés, ce matin, avant de prendre le repas du Seigneur, peut-être il y a quelqu'un ici qui dirait, mais moi, quand tu parles de Jésus, j'y crois. Ce matin, je ne vais pas vous inviter à devenir membre de la vie comblée, mais je vais vous inviter à devenir membre de la grande famille de Dieu, peu importe la confession. Tous ceux et celles qui font partie de Jésus font partie de sa famille. Et rendus au ciel, nous n'aurons pas une place pour la vie comblée, une place pour l'église de Pentecôte ou l'église baptiste ou n'importe quelle autre dénomination. Nous serons une seule famille. Mais ce matin, si vous êtes là et vous dites dans votre cœur, « Moi, je crois en Jésus, mais je n'ai pas encore l'assurance. Je ne suis pas sûr et certain, sans aucun doute, que j'ai la vie éternelle. » La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et veut pas, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont déjà prisonniers de Satan et font partie de son royaume. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés du royaume des ténèbres. Et il nous a fait naître de nouveau dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ce matin, si vous voulez, vous pouvez prendre cette décision. Je peux prier avec vous. Et vous pouvez confesser avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur, ton Maître. À partir d'aujourd'hui, tu vas le servir et le suivre. Et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et tu vas pouvoir commencer une nouvelle vie avec Jésus. Tes péchés seront pardonnés. Le Saint-Esprit va entrer dans ton cœur, faire de toi une nouvelle création. Satan n'aura plus le droit de t'opprimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, « Pasteur, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin d'avoir cette assurance que je suis sauvé de mes péchés. » Si c'est le cas et tu veux prier avec moi, je ne vais pas vous embarrasser, mais juste lever la main et on va faire une prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, « Oui, j'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin de connaître Jésus. J'ai besoin de donner ma vie à lui ce matin. » Jésus a dit, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. » Jésus est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, « Oui, j'ai besoin de donner mon cœur à Jésus. » Sinon, je vais inviter les personnes qui vont servir la Sainte-Cène de venir et on va distribuer le pain, le jus ce matin. Mais on va le faire dans...